Sans être spécialiste de la finance, il y a des noms prestigieux que chacun connaît, Rothschild, Morgan ou Lehman Brothers. Eh bien, c'est cette dernière banque d'affaires qui est ruinée aujourd'hui. Elle annonce sa mise en faillite, c'est un coup de tonnerre dans le monde économique et aussi le signe que la fameuse crise des subprimes n'est pas du tout terminée.
New York, hier soir, après un week-end de tractation, la nouvelle tombe, Lehman Brothers ne sera pas sauvé. La quatrième banque d'affaires américaine est en faillite. Sans attendre, des employés viennent vider leurs bureaux.
C'est terrible, terrible. On ramasse toutes nos affaires.
Parallèlement, un autre établissement de renom, Merrill Lynch, est racheté par Bank of America. Un séisme inédit selon l'ancien gourou des marchés, Alan Greenspan.
C'est la crise la plus grave, sans doute, depuis un siècle.
16 heures à Londres. Dans le quartier des affaires, la faillite de Lehman Brothers menace 4000 emplois. Ces salariés gardent le silence, mais ont déjà fait leur carton.
Le 15 septembre 2008, la faillite de la quatrième banque d'affaires américaine est déclarée. 10 ans après, les anciens de Lehman Brothers, ceux-là même qui avaient plié bagages en une nuit et préféré garder le silence, ont reçu une drôle d'invitation à fêter ça, une soirée privée à Londres, pour célébrer quoi ? Une faillite de 487 milliards d'euros à l'origine d'un des plus grands cracks financiers de l'histoire. La crise, en 2008, personne ou presque ne l'avait vu venir. Les rares économistes à nous avoir mis en garde sont restés inaudibles. Pour le FMI, l'économie mondiale vivait même un nouvel âge d'or. 2008, une crise financière doublée d'une crise de la pensée économique, trop homogène, trop sûre d'elle-même. C'est cette hypothèse que nous avons choisi d'interroger aujourd'hui avec notre invité, l'économiste Patrick Artus. En 2008, il était en première ligne déjà chez Natixis comme directeur des études de la banque d'investissement. En première ligne aussi dans les médias, régulièrement invité à délivrer analyses et prévisions. Par ailleurs, à la tête d'une intense activité éditoriale, co-auteur en 2008 de Globalisation, le pire est à venir, en 2009 de sortie de crise chez Perrin, en 2016 de la folie des banques centrales, pourquoi la prochaine crise sera pire, ou encore au printemps dernier de et si les salariés se révoltaient chez Fayard. Bonjour à vous Patrick Artus.
Bonjour.
Et merci d'être le premier invité de cette grande table des idées. L'arrivée aussi à ce micro d'une nouvelle voix à intervalles réguliers, celle de Marianne Escovic. Bonjour.
Bonjour à tous.
Patrick Artus, en 2008, vous aussi, vous n'avez rien vu venir. 5 mois avant la faillite de Lehman, vous assurez dans les colonnes du magazine Challenge, la crise est finie, le pire est passé. En 2007, un an avant, vous dénonciez la crédulité et l'absence de sang-froid des marchés, jugeant les craintes infondées, c'était dans une note pour Natixis. Il y avait quand même quelques signaux, Patrick Artus, et pourtant, peu de temps après, vous reconnaissez être tombé dans le panneau, ça c'était dans le Point, en mai 2008. Après coup, comment vous l'expliquez-vous, cet aveuglement ?
D'abord, la crise était vraiment finie, c'est-à-dire que la première crise... Les subprimes, pour nos auditeurs qui sont peut-être pas au courant de ces détails, ce sont des crédits immobiliers qui ont été faits à l'époque à des Américains de revenus très faibles, hein, et qui n'étaient solvables que grâce à la valeur de la maison qu'ils achetaient avec le crédit. Donc c'était une opération un peu bizarre. Et donc quand les prix de l'immobilier sont retournés à la baisse, ces Américains avaient une maison qui valait moins cher que leur crédit, donc étaient en faillite. Hein. Mais ceci, c'est tout petit. Hein. C'est quelques centaines de milliards de dollars de pertes. Et au moment où j'écris cette note, donc à la fin de 2017, ces pertes sont épongées. De 2007, pardon. Ces pertes sont complètement épongées, c'est-à-dire que les banques ont provisionné les pertes sur ces crédits subprimes. Et donc si on s'arrêtait là, effectivement, on aurait eu une petite crise immobilière aux États-Unis et on n'aurait pas eu du tout une crise globale. Donc ce qui est intéressant, je crois intellectuellement, c'est de se demander comment une petite crise immobilière aux États-Unis peut déclencher une crise globale. Et comment on passe de quelques centaines de milliers de milliards de dollars de pertes à des dizaines de milliers de milliards de dollars de pertes après? Et la réponse est assez largement Lehman. C'est-à-dire que la faillite de Lehman n'était pas du tout prévisible, je crois. Les autorités américaines auraient pu décider de sauver Lehman. Il aurait fallu 400 milliards de dollars de recapitalisation, ce qui est aussi une toute petite somme. Hein. Et pour ne pas mettre 400 milliards de dollars de fonds propres dans Lehman, ils ont provoqué une crise mondiale épouvantable. Parce qu'à l'époque, on ne comprenait pas bien, il me semble, deux choses. D'une part, l'interconnexion. C'est-à-dire le fait que Lehman était petit, mais était au centre d'un certain nombre de marchés financiers sur les produits dérivés, sur les produits structurés. Donc il y a eu beaucoup de travaux d'économistes depuis 10 ans sur cette question de qu'est-ce que c'est qu'une crise systémique. Ah, c'est une crise justement qui peut partir d'un choc petit et devenir grosse, quoi. Et puis, j'arrête là, on ne comprenait pas bien les mécanismes de panique. C'est-à-dire que certains, et qui sont quand même très mystérieux, on en parlait il y a quelques minutes, la crise turque aujourd'hui, c'est une crise qui est d'une violence incroyable. Quand vous regardez le taux de change, ça ne déclenche absolument rien de systémique. Alors pourquoi Lehman déclenche une crise systémique et pourquoi la crise turque ne fait pas ça? Donc il faut essayer de comprendre aussi les mécanismes de panique.
Alors vous dites « on », ça veut dire vous également.
Oui, la
également,
communauté, des gens qui travaillent là-dessus. Voilà.
De ne pas avoir vu ces interconnexions, de nouveaux outils, vous le dites, peut-être de nouvelles idées, de nouveaux indicateurs sont apparus depuis qui vous permettent de comprendre plus clairement ce qui se joue sur ce marché, cette plateforme. Et puis vous dites ne pas avoir voulu accentuer la panique peut-être d'une certaine manière. Dans cet entretien, la crise est finie, le pire est passé. Vous racontez, je reviens des États-Unis, les acteurs du marché sont unanimes. Est-ce qu'il y a aussi, pour un économiste comme vous, chef économiste chez Natixis, un motif, une importance à ne pas créer cette panique? C'est, est-ce que vous n'avez pas pratiqué une sorte d'optimisme forcené à votre retour des États-Unis?
Non, honnêtement, je me suis complètement trompé, donc je l'ai écrit plusieurs fois depuis. Mais à nouveau, on était dans des chocs extrêmement faibles. Hein. Donc le scénario le plus vraisemblable quand même, c'était pas un scénario de crise mondiale violente. On avait quelques centaines de milliards de dollars de pertes pour les banques américaines. Ça n'aurait jamais dû déclencher une crise de cette taille. Donc, et une fois que ces pertes étaient absorbées par les banques, on n'aurait pas dû avoir cette crise. Donc, ce qu'il faut se demander à nouveau, le scénario le plus vraisemblable était vraiment le scénario où la crise s'arrêtait.
C'était quoi ce panneau quand vous dites « je suis tombé dans le panneau » ?
Non, c'est pas le panneau. J'aurais ça, pas dû dire ça parce que c'est pas clair. Non, je veux dire, je n'ai pas vu à l'époque que, à nouveau, mais ce que personne ne regardait vraiment, c'est-à-dire, je me répète, mais d'une part, ce côté interrelation, si la banque A est petite, mais si elle est au centre d'un marché qui affecte toutes les autres banques, elle va jouer un rôle beaucoup plus déterminant que sa simple taille. Et puis deuxièmement, ce qu'on comprend mieux maintenant, ce qu'on appelle les crises autoréalisatrices, c'est-à-dire qu'il suffit qu'on anticipe une crise pour qu'elle ait lieu. Après Lehman, dans le monde entier, plus personne ne prête à une banque, que ce soit une banque japonaise, hongkongaise, américaine, européenne, ce qui n'a pas réellement de sens, quoi, je dirais, ce qui n'est pas fondamentalement fondé. Donc on a une crise de type autoréalisateur, c'est-à-dire où, anticipant que toutes les banques vont être en difficulté, de fait, après, on fabrique une situation où toutes les banques sont en difficulté. Donc c'est l'anticipation de la crise qui déclenche la crise. Et vous voyez, je finis là-dessus. C'est extrêmement difficile de prévoir ça. C'est-à-dire, si une crise est due à un choc objectif, le prix du pétrole triple. Donc vous dites, bon, ça, vous savez que ça va faire une crise, c'est un truc. Mais si une crise est simplement due à un changement des anticipations qui n'est pas lié à un changement fondamental des économies, comment vous pouvez prévoir ça?
Ce qui est quand même intéressant, Patrick Artus, c'est que les quelques économistes, les rares économistes qui ont vu arriver cette crise ne sont pas ou n'étaient pas à ce moment-là au cœur du système, au cœur de la machine, comme vous l'étiez chez Natixis. Alors, du coup, la question se pose de savoir si cette proximité que vous avez avec le milieu financier, bancaire, ne vous a pas empêché d'y voir clair. Est-ce que vous n'avez pas eu envie par la suite de couper le cordon, de peut-être sortir de cette sphère-là, parce qu'elle vous empêche de voir la réalité des choses que vous verriez peut-être mieux si vous étiez à l'université
uniquement? Je suis totalement désaccord avec ce que vous venez de dire. Je pense qu'on est... Dans mon cas personnel, j'étais extrêmement libre d'écrire ce que je voulais. Si j'avais voulu écrire que la crise allait être abominable, j'aurais écrit que la crise allait être abominable. Personne ne m'aurait empêché de le faire. Je crois que j'ai fait sérieusement mon travail. Je crois pas du tout que ça ait un rapport avec le fait que j'étais salarié de la banque. Faut se méfier aussi de ceux qui disent qu'ils ont écrit que la crise allait avoir lieu, parce que certains ont annoncé des crises, mais pas celle-là.
Vous pensez à qui ?
Non, il y a ça. Des gens qui ont annoncé effectivement qu'il y aurait des crises, mais il y a beaucoup de gens qui avaient annoncé une nouvelle crise du dollar, avec les déficits extérieurs des États-Unis, qui n'a pas eu lieu. Donc il y a des gens aussi qui n'ont pas vraiment annoncé ce type de crise. Et à nouveau, je pense qu'il y avait à nouveau deux choses. Il y avait la méconnaissance d'un certain nombre de faits. par exemple, la façon dont se finançaient un certain nombre de structures de titrisation, qui est extrêmement compliquée, et il y avait extrêmement peu de gens qui étaient au courant, y compris à l'intérieur des banques. Hein. Donc à l'intérieur des banques, même les directions générales des banques ne savaient pas forcément comment se faisaient ces... comment se finançaient ces montages financiers.
C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'en 2008, vous n'aviez pas vu venir la crise. Aujourd'hui, en tout cas, vous pensiez qu'elle était terminée, qu'elle ne serait pas d'une telle ampleur. Aujourd'hui, vous en pronostiquez presque une tous les 6 mois ou tous les ans.
Non, pas du tout.
Non. Mais je prends l'exemple de 2016 avec votre ouvrage « La folie des banques centrales » chez Fayard. Vous avez là quand même pointé du doigt ces liquidités qui sont versées par les banques centrales, qui nourrissent pour vous des bulles obligataire, avec un potentiel que vous avez jugé dévastateur, cette crise grave que vous nous annonciez, qui devait être même encore plus grave que la précédente, celle de 2008, elle n'est pas arrivée.
Pour l'instant, elle n'est pas arrivée. On a quand même des choses pas très sympathiques qui sont bien liées à la liquidité. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes répétitifs dans les pays émergents avec des capitaux qui rentrent, qui sortent pour des montants de plus en plus élevés? C'est bien parce qu'il y a de plus en plus de liquidités qui peut se déplacer. Donc on n'a pas une crise extrêmement violente, mais enfin quand même, si vous êtes turc, brésilien, indien ou sud-africain, et que vous voyez les mouvements de capitaux qui déstabilisent totalement votre économie, vous allez plutôt avoir l'idée qu'on n'est pas dans un monde extrêmement stable financièrement, et que de 2013 à 2016, on n'en a pas beaucoup parlé. Dans beaucoup de pays émergents, on a une situation de crise et qui est liée à ces liquidités. C'est vrai qu'aux États-Unis, la politique économique et monétaire est extraordinairement expansionniste en Europe, et pour l'instant, il ne s'est rien passé. Mais à nouveau, on a quand même des signes de choses qui sont extrêmement inquiétantes et qui pourtant sont aujourd'hui à nouveau sont plutôt dans le monde émergent que dans les pays de l'OCDE.
Deux petites questions d'actualité, puis après je donne la parole à Marianne Escovic qui a aussi des images fortes en tête à vous communiquer. Le protectionnisme américain, ce qui se passe actuellement, cette guerre commerciale aussi ouverte avec la Chine, ça c'est un contre-coup pour vous de 2008?
Non, je crois pas. Alors... très indirectement. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le monde est en train, globalement, le monde devient une économie de services. Parce que nous sommes plus vieux, nous sommes plus riches, et c'est vrai aussi en Chine, enfin dans beaucoup de pays. Ce qui fait la croissance mondiale, ce sont les services. Or, la plupart des pays veulent conserver leur industrie. Et comme le monde devient une économie de services, il devient extrêmement compliqué que tous nous conservions de l'industrie, puisque le poids de l'industrie dans l'économie mondiale diminue. Et la concurrence entre pays pour conserver de l'industrie est donc beaucoup plus violente que quand la demande de produits industriels mondialement croissait rapidement. Pourquoi est-ce que le monde consomme moins de services? À nouveau, on est plus vieux, donc on consomme plus de services et moins d'industrie. On est plus vieux, donc on consomme davantage de services. Il y a les problèmes d'environnement, il y a la saturation pour les produits industriels. Quand on a 2 voitures, on n'en achète pas une troisième. Donc je crois qu'il y a surtout une intensification de la concurrence et qu'elle a provoqué d'abord des guerres par les devises. Des pays essaient de déprécier leur taux de change, des guerres par les impôts. Tout le monde baisse ses impôts pour essayer d'être plus concurrentiel que les voisins et qu'elle produit aujourd'hui le protectionnisme. Donc ça, c'est une évolution qui est relativement compréhensible.
Autre question, la crise de la dette grecque, est-ce qu'elle est vraiment résolue? Est-ce qu'elle est vraiment terminée? Vous avez le droit cette fois d'être plus prudent qu'en 2008.
Non, mais sur la Grèce, là par contre, j'ai pas de remords parce que depuis très longtemps, j'écris la même chose. Donc je pense qu'on a techniquement réglé le problème de la dette. En réalité, on l'a considérablement réduite. Quand vous dites à un pays, vous n'allez pas payer d'intérêt pendant très longtemps, puis vous allez rembourser à des taux d'intérêt très bas pendant très longtemps, c'est équivalent à réduire la dette. Donc on a beaucoup réduit la dette de la Grèce, mais on n'a pas du tout réglé la crise. Si on a réglé le problème technique de dette, on n'a pas réglé le problème de crise grecque, puisque on n'a pas réfléchi collectivement, et en tout cas en Europe, sur le modèle économique que devait avoir la Grèce pour s'en tirer durablement. Donc c'est pas tout d'avoir de gros excédents budgétaires qui permettent d'être solvables techniquement. Quel est l'avantage comparatif, comme disent les économistes, de la Grèce? Qu'est-ce que la Grèce doit faire pour créer des emplois, pour créer de la richesse? C'est quoi les secteurs porteurs en Grèce? Comment les autres Européens peuvent aider les Grecs à développer ces secteurs porteurs?
Et quelle est sa marge de manœuvre? Parce que beaucoup soulignent aujourd'hui, c'est le cas de l'essayiste Coralie Delhomme, que le cauchemar grec est loin d'être terminé, et notamment la situation sociale est dramatique.
Oui, c'est-à-dire qu'on laisse techniquement, la Grèce exempte aussi. On a réglé le problème d'une façon assez simple, qui est, un, réduire la dette, ou l'étaler dans le temps à des taux très bas, ce qui est pareil, et deux, faire en sorte que l'État grec ait un énorme excédent budgétaire, hein, qui lui permet de faire face à une dette qui reste très élevée. Et pour avoir cet énorme excédent budgétaire, on a baissé les dépenses de santé, les dépenses de retraite, les dépenses d'éducation, etc. Voilà. Et donc ceci est fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, techniquement, à nouveau, la Grèce est financièrement solvable. Mais à nouveau, nous n'avons donné aucune aide collectivement en Europe à la Grèce à la fabrication d'un modèle économique qui marche. C'est-à-dire qu'est-ce que les Grecs produisent mieux que les autres Européens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut aller... Alors, il y a le tourisme. Il y a une expansion considérable du tourisme, hein, et de l'immobilier lié au tourisme. Mais là, on arrive à la saturation totale. Vous voyez, c'est ce qu'on voit sur les îles grecques. On est serré comme ça. Donc, on peut pas faire une croissance de long terme uniquement basée sur le tourisme et l'immobilier touristique. Donc, qu'est-ce que les Grecs vont produire efficacement? Qu'est-ce qui va faire leur croissance dans le long terme? Je crois que c'est ça la question que l'Europe ne s'est pas posée. Et c'est la question que, curieusement, aujourd'hui, le FMI pose, hein, beaucoup plus que l'Europe. Et je crois que c'est extrêmement important qu'il aurait fallu travailler avec les Grecs pour investir dans les secteurs qui sont des secteurs d'avenir en Grèce. Et ça, on ne l'a pas fait.
Travailler avec les Grecs 10 ans plus tard, 2008-2018, a-t-on tiré les leçons de cette crise-là? Est-ce que le débat en économie y a gagné en pluralisme? Question qu'on va se poser tout de suite sur France Culture. Il est 13h12.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
La crise de 2008 a-t-elle changé la prévision économique, voire ses réalités? A-t-elle ouvert une place au doute? Invité de cette première grande table des idées, Patrick Artus, chef économiste chez Natixis, professeur à la Sorbonne. Et avec nous, Maya Neskovic, qui est arrivée en ce lundi avec plein d'images assez spectaculaires de cette crise de 2008, dont une,
oui, parce que c'était comment dire assez plaisant de se replonger dans cette époque et une époque qui a produit un certain nombre d'images assez spectaculaires. On l'entendait, il y avait les salariés de Lehman Brothers avec leurs petits cartons sous les bras, mais il y en a d'autres. C'était celle des auditions par le Sénat américain de certains de ceux qu'on désignait à l'époque comme les responsables de la crise. Et alors il y en a une qui a marqué les esprits, en tout cas qui avait marqué le mien. Je sais pas si c'est votre cas, Monsieur Artus, c'est celle d'Alan Greenspan qui fut pendant près de 20 ans le président de la réserve fédérale américaine quelques mois après la chute de Lehman Brothers, et on le voyait, la mine un peu palote, avouer que sa foi en la perfection des marchés libres et concurrentiels avait été sacrément ébranlée par la crise. Et je voudrais qu'on écoute le président de la commission, Henri Waxman, lui soumettre une hypothèse quant aux raisons qui pourraient expliquer pourquoi il n'avait rien vu venir.
You feel that your ideology...
Avez-vous l'impression que votre idéologie vous a poussé à prendre des décisions que vous voudriez ne pas avoir prises?
N'oubliez pas ce qu'est une idéologie. Une idéologie est un cadre conceptuel à notre manière de traiter avec la réalité. Tout le monde en a une. Pour exister, il vous faut une idéologie. La question est-elle exacte ou non? Et ce que je suis en train de vous dire, c'est... Oui, j'ai vu une faille. Je ne sais pas à quel point elle est significante ou permanente, mais ça m'a vraiment bouleversé.
Vous avez trouvé une faille dans la réalité?
J'ai trouvé une faille dans le modèle, une faille dans ce que je considérais être la structure de fonctionnement cruciale déterminant la marche du monde, pour le dire ainsi.
Autrement dit, vous avez découvert que votre vision du monde, votre idéologie était fausse, ne marchait pas.
Précisément. C'est précisément ce qui m'a choqué. Depuis plus de 40 ans, je fonctionnais avec un nombre considérable de preuves que ça marchait exceptionnellement bien.
Alors, ce qui est intéressant dans la réponse de Greenspan, c'est évidemment qu'il admette les failles d'un système dans lequel il avait une confiance absolue, mais c'est surtout qu'il admette que cette confiance relevait d'une idéologie, et plus que ça, d'un enfermement idéologique. Alors, je ne sais pas si vous avez vous-même, vous nous avez expliqué que c'était très difficile de prévoir cette crise, mais est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, peut-être que je souffre moi-même de certaines œillères qui m'ont...
d'un enfermement idéologique.
Ouais. Non, je contrairement à ce qu'on croit, enfin, je pense peut-être que là l'Europe est peut-être différente des États-Unis, mais encore, vous savez, on oppose souvent les économistes mainstream et les économistes
orthodoxes,
hétérodoxes. honnêtement, je trouve que cette opposition est assez peu justifiée. J'enseigne à l'école d'économie de Paris. Il y a toutes sortes de gens qui travaillent avec des idées différentes. Personne ne croit à l'économie de marché libre concurrente. Le modèle qui est le plus adopté, je dirais, c'est un modèle d'économie de marché très régulé. Je crois que c'est plutôt ça le modèle que les gens ont à l'esprit.
Mais Patrick Artus, quand vous plaidez pour le retour du pragmatisme contre le dogmatisme, ça veut dire que vous assumez aussi le fait qu'il y a une part de dogmatisme aujourd'hui en économie.
Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde des économistes professionnels, il reste assez peu de dogmatisme. Je crois que les gens ont plutôt une vue relativement intermédiaire. Assez souvent, je me trouve dans des studios avec, vous savez, il y a un groupe en France qui s'appelle les économistes atterrés.
Oui, qui est apparu à la faveur de la crise, mais qu'on entendait.
Et on s'aperçoit qu'on est d'accord sur tout, si vous voulez. Donc je crois que non, il y a un modèle quand même relativement consensuel aujourd'hui qui est de dire, l'économie de marché, ça se régule. Et la qualité de la régulation est une chose extrêmement importante, que ce soit la finance, le transport, l'énergie, l'eau, voilà. Et deuxièmement, il faut avoir une approche pluridisciplinaire aux problèmes économiques. On peut pas travailler l'économie sans regarder la sociologie, le fonctionnement des institutions, les règles sociales. Et il y a un énorme consensus autour de ça. Donc, opposer deux groupes d'économistes, les uns qui seraient stupidement croyants dans l'économie de marché sans intervention étatique et ceux qui la rejetteraient, c'est très, très erroné comme vision du monde des économistes aujourd'hui.
Justement,
peut-être que c'est erroné. En tout cas, il y en a certains qui pensent qu'il y a des courants dominants et des courants minoritaires, et notamment à l'université, et qui demandent un peu plus de mise en concurrence des économistes entre eux. Et il y avait une tentative en 2014, c'était l'idée de créer une seconde section d'enseignement de l'économie à l'université. C'était une promesse de la ministre de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, et qui répondait à une demande de certains économistes, et notamment ceux de l'AFEP, l'Association française d'économie politique, qui regroupe, pour le dire vite, ceux qu'on appelle les économistes hétérodoxes, par opposition aux orthodoxes, dans lesquels on peut classer les régulationnistes, les post-keynésiens, les marxistes, etc., et qui sont, comme vous le disiez, ceux qui placent davantage l'économie dans le champ des sciences sociales, qui ne font pas de l'économie une science exact, avec expérimental, mathématiques, etc. Et à cette occasion, Jean Tirole, qui était fraîchement auréolé de son prix de la Banque de Suède, le prix Nobel d'économie, il avait pris la parole de manière assez virulente contre un projet qu'il qualifiait de catastrophe. Et l'idée a finalement été abandonnée. Alors ça pose plusieurs questions. Pourquoi est-ce que ça aurait été une catastrophe? Est-ce que selon vous, ça aurait pu l'être? Et est-ce que l'école de Toulouse, la Toulouse School of Economics, comme on dit maintenant, qui a le vent en poupe, puisqu'elle est l'école de Jean Tirole, est-ce qu'elle pourrait encore produire des économistes hétérodoxes? Est-ce qu'elle pourrait produire un Robert Boyer? Est-ce qu'elle pourrait produire des André Orléans, voire même des Thomas Piketty?
Je ne peux pas répondre sur Toulouse. Moi, je suis à l'école d'économie de Paris, où nous avons Daniel Cohen, Thomas Piketty, qui sont dans le monde le plus orthodoxe qui soit, qui est l'école d'économie de Paris. Non, je ne suis pas du tout d'accord non plus avec votre approche, et je crois que Jean Tirole a eu raison.
Mais
parce que nous devons travailler ensemble. Parce que la seule façon.
Le problème, c'est que eux, on estime que personne ne veut travailler avec eux. Il y a des problèmes de nomination.
Je ne suis pas universitaire à temps plein, ni responsable du ministère des universités. Ce qu'il faut, c'est être sérieux.
Et eux ne sont pas sérieux.
Pas tous, mais de l'autre côté non plus.
Mais qui décide qui est sérieux?
Donc de l'autre côté non plus. Et donc il faut pas non plus. Il faut que les gens soient sérieux. Il y a des gens sérieux dans les deux groupes. Je crois qu'il faut à la fois accepter la vision multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec des historiens, des sociologues, des gens, je connais personne qui dise qu'il faut pas le faire, honnêtement, quand même.
Donc pour vous, par exemple, le livre de Pierre Cahuc et d'André Zilberberg, Le négationnisme économique, c'est un livre pas sérieux.
Extrêmement sérieux. Je réprouve totalement. Je trouve qu'ils avaient un vrai message à faire passer. C'est qu'on sait bien mieux faire aujourd'hui de l'économie quantitative, c'est-à-dire en regardant les faits et en en tirant des conclusions, qu'il y a 10 ans ou 20 ans. C'est un vrai message. On a fait d'énormes progrès dans l'analyse des faits. Parce qu'on a des, on se rapproche de la méthode scientifique, c'est qu'on arrive à avoir des échantillons témoins. Par exemple, vous avez une région du Canada où on ouvre les magasins le dimanche et une région du Canada où on n'ouvre pas les magasins le dimanche. Et on va comparer les deux régions. Donc on arrive à faire Oui, c'est un peu l'effet placebo en médecine, quoi.
Bon, ça, c'était peut-être le message d'origine. Au final, oui, ça a quand même été une charge assez violente contre les économistes.
Ils sont très énervés, je pense toujours, d'ailleurs, tous les deux, par la partie pas sérieuse des économistes hétérodoxes. C'est-à-dire des gens qui, en fait, étant eux-mêmes pas des économistes de très grande qualité, ont essayé de se séparer
André
du jugement
Orléans
des autres.
André Orléans est un économiste de qualité.
André Orléans est un copain, c'est un type remarquable. Mais chez les atterrés, je connais plein de gens, Dominique Plion, que vous recevez de temps en temps ici, qui sont des gens tout à fait remarquables. Donc, si vous voulez, voilà. Mais il n'y a pas de sujet vraiment, quand même.
Non, mais disons que le sujet, c'est qu'on veut bien, dans une certaine communauté d'économistes, on veut bien discuter des hypothèses auxiliaires, mais on ne veut jamais débattre des hypothèses fondamentales. On reste dans un paradigme qui est fermé, et puis on débat des à côté, mais on remet pas en question.
Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que les gens, à nouveau, travaillent sur des modèles de crise complètement nouveaux, travaillent sur des données d'économie comportementale, où on regarde comment les gens interagissent en face de certains chocs. Font cette économétrie sur des données individuelles. Quand des gens, par exemple, je pense à des camarades qui regardent, par exemple, des trajectoires de centaines de milliers de jeunes sur plusieurs années, en regardant ce qui se passe, quand ils passent dans la formation professionnelle ou quand ils y passent pas, etc. On a plein de choses qui sont complètement, qui n'ont aucun rapport avec le modèle d'économie de marché traditionnelle et qui sont, regardez ce qui se passe dans la littérature économique. Quand vous lisez les meilleures revues aujourd'hui, 80% des articles sont des articles empiriques qui traitent des données, qui ne partent pas du tout d'une idéologie. Les titres sont d'ailleurs parfois assez folkloriques, vous voyez, du genre, est-ce que les mères alcooliques ont des enfants qui font de moins bonnes études, ce genre de truc. Et vous voyez, donc on n'est pas du tout dans l'idéologie, quoi.
Patrick Artus, en 10 ans, pour vous, depuis la crise de 2008, qu'est-ce que cette crise a fait à la parole des économistes? Est-ce que vous avez quand même noté des changements? Est-ce que vous avez été témoin d'un changement dans le champ lexical, par exemple, des économistes? Vous ne trouvez pas l'emploi d'un conditionnel qui était rarement en vigueur jusque-là, arrivé un petit peu plus, soudainement. Est-ce que les certitudes d'hier ont quand même disparu? Vous avez le sentiment que vous et vos confrères faites plus attention à ce que peuvent être vos prévisions, vos pronostics?
D'abord, comme je l'ai dit tout au début, je crois que nous sommes capables de construire des modèles qui nous expliquent qu'on ne sait pas prévoir. Et en particulier, les développements récents des modèles de crise sont des modèles qui génèrent des crises de façon imprévisible. Et donc là, on est dans quelque chose qui devient extrêmement compliqué, puisque
donc maintenant, si on vous demande s'il y a une crise, vous dites « je ne sais pas ».
Un équilibre où tout va bien et un équilibre où tout va mal. Et il n'y a pas de différence objective entre les deux trajectoires. C'est pas parce qu'il y a un vrai choc, etc.
C'est pas toujours un peu la même crise quand même. Une bulle se forme, elle éclate et elle entraîne avec elle.
Oui, mais pourquoi est-ce qu'une bulle se forme
depuis les tulipes.
Pourquoi est-ce que en avril 2018, tout d'un coup, tout le monde enlève son argent des pays émergents alors que dans les deux années d'avant, tout le monde mettait son argent dans les pays émergents. C'est les mêmes émergents. Donc tout d'un coup, il y a un changement de perception, d'anticipation. Et vous voyez, le problème, c'est qu'il peut être, je le disais tout à l'heure, il peut être autoréalisateur. L'argent sort des émergents, donc les émergents ont moins de moyens pour financer leurs investissements, donc ils vont plus mal, donc il devient raisonnable de sortir l'argent. C'est-à-dire que l'action elle-même fabrique sa propre rationalité. Ce genre de modèle se développe, vous voyez, et c'est quand même extrêmement pertinent, je crois. Et du coup, on ne sait plus prévoir. On sait simplement dire, attention, la crise est toujours une possibilité présente, finalement.
Donc, de nouveaux outils. Mais sur la parole des économistes, est-ce qu'on vous appelle? Est-ce qu'on vous consulte toujours, comme avant? Comme si vous étiez un peu des oracles qu'on
n'a jamais
voir.
Été consultés comme des oracles, honnêtement. Non, il y a quand même sans doute, à nouveau, je crois, un souci de faire des choses plus interdisciplinaires. Un souci de l'histoire, beaucoup plus important. Avec beaucoup de gens qui travaillent sur la longue période quand même, en regardant. Vous voyez, moi il faut aller à Blois aux Journées de l'Histoire, et il y a une session d'économistes aux Journées de l'Histoire, où par exemple, on a comparé les révolutions industrielles du début du 19e siècle en Angleterre avec ce qu'on voit aujourd'hui dans la Silicon Valley. Donc ce genre de choses, comme c'est extrêmement important de faire ça, je trouve. Donc il y a cette approche historique qui s'est développée. On est sans doute devenu plus prudent, mais je suis pas tout à fait sûr. Mais surtout, je crois qu'on essaie de développer des nouveaux instruments. Et en particulier, comme je le disais tout à l'heure, dans l'analyse quantitative, c'est-à-dire d'essayer d'être capable de tirer des messages, des faits qui soient relativement robustes, en tout cas le plus robuste que ce qu'on savait faire dans le passé.
On a vu un peu les évolutions depuis 2008 à l'université, dans les médias de la parole des économistes et dans la perception, on va dire que l'opinion publique se fait aujourd'hui des économistes ou de ces figures qui ont contribué, de ces acteurs de la crise, Maya Neskovic. Il faut peut-être aller voir du côté de la culture.
Exactement, et même du cinéma. Je ne sais pas si vous avez le temps d'aller au cinéma, oui. Monsieur Artus, avec tout ce que vous produisez. Mais je ne sais pas si quand vous allez au cinéma, vous aimez bien le genre film de finance, film de bourse, pas particulièrement. En tout cas, ça marche pas mal. Moi, j'aime bien les regarder. Alors, je ne comprends pas toujours très bien les enjeux. Généralement, il y a un trader cupide et méchant qui veut se faire beaucoup d'argent.
Il y a Margin Call qui est formidable.
Voilà, mais il y avait Wall Street, etc. Bon, il y a des montages financiers très très compliqués, moyennement légaux. Et alors moi, il y en a un que j'aime beaucoup et que je trouve qui est le plus pédagogique, qui permettait de comprendre des choses comme la spéculation, le délit d'initié, la vente à découvert. C'est celui de John Landis qui est sorti en 1983. Le titre en français, c'était « Un fauteuil pour deux », « Trading Place » en anglais. Et on va écouter la scène où Dan Aykroyd, l'un des acteurs, explique à Eddie Murphy le fonctionnement et la philosophie de la bourse alors qu'ils vont pénétrer dans la salle des marchés du World Trade Center.
Gardez la monnaie. Pense grand, pense positif. Ne montre jamais de signe de faiblesse. Hein? Et plonge tes crocs dans la jugulaire. Oui. Achète bas, vends haut. Oui. La peur, c'est l'autre qui doit l'éprouver.
Absolument.
Rien de ce que tu as jamais pu voir ne t'a préparé à l'épouvantable carnage auquel tu vas bientôt assister. La coupe du monde et les barricades à côté de ça ne sont que des enfantillages.
Absolument.
À la bourse, la devise est tu ou sois tué.
Oui.
Tu n'as pas d'amis et tu n'en auras jamais et tu ne fais pas de prisonnier.
Pas de prisonnier.
11h, tu ramasses $1 million sur le blé. 11h10, boum, tes gosses arrêtent leurs études, on reprend ta voiture et tu te retrouves à la
rue. On va les tuer, ces enculés. On va les tuer.
En français dans le texte, Maya Neskovic.
Voilà, voilà. Alors, vous l'avez vu ce film ? Oui. Alors, même si en l'occurrence, ces deux-là sont sympas, on a fait de la figure du trader, celle du pourri ultime, celui qui nous permettait de satisfaire notre besoin de goudron et de plumes. Et je me demandais si cette figure du trader cupide, sans foi ni loi, avait pas été un peu trop pratique pour faire diversion et pour éviter de poser la question des autres responsabilités, voire des vraies responsabilités, celles des politiques, des banques centrales, comme on en discutait tout à l'heure, ceux qui ont mis en place les règles du jeu. Et l'autre question, c'est est-ce qu'on va pas finalement les regretter, nos petits traders, une fois qu'ils auront été intégralement remplacés par les ordinateurs du trading à haute fréquence ?
Patrick Artus.
Bon, d'abord, il y a beaucoup d'escrocs et de gens malhonnêtes dans la finance. Il y en a eu. Enfin, ça, c'est inutile de le nier, c'est évident.
Il y en a plus ?
Il y en a peut-être des gens malhonnêtes, mais alors ils ont beaucoup moins de liberté pour exercer leur malhonnêteté. Par exemple, dans les banques aujourd'hui, vous savez, on donne des limites de risque aux traders. Donc, ils n'ont pas le droit de prendre du risque en plus d'une certaine quantité. Et quand vous divisez par 10 les limites de risque, effectivement, vous limitez de toute façon la capacité des gens de faire des choses dangereuses. Non, il y a eu des gens malhonnêtes, il y a eu des gens qui ont essayé de gagner beaucoup d'argent, c'est inutile.
Oui,
de...
mais on en a fait les responsables. Pardon.
Voilà, alors après, j'ai du mal à croire, mais on le sait, que dans les grandes banques, les directions générales n'étaient pas au courant de tout ce que faisaient les traders. On a des systèmes d'information qui sont extrêmement performants, donc normalement on sait tout. Hein, et donc, évidemment, les managements des banques étaient parfaitement informés de ce qui se passait dans les salles des marchés.
Donc toutes les responsabilités ont été tirées pour vous depuis 10 ans ?
Il y a comme beaucoup de gens qui sont en prison. Hein, si, quand même. Et puis, on parlait tout à l'heure des banques centrales. Les banques centrales, c'est très intéressant, je crois encore, peut-être 5 secondes, continuent aujourd'hui à nous dire « ce n'est pas notre métier d'empêcher les bulles sur les prix des actifs ou d'empêcher l'excès d'endettement ». Il y a des papiers extrêmement théoriques qui sortent, hein, du milieu des banques centrales et qui disent, qui continuent à dire, nous avons des raisons fortes pour ne pas empêcher, par exemple, une bulle immobilière.
Hein, donc il faudrait aller voir d'un peu plus près ce qui se passe du côté des banques centrales. C'est ce que vous nous dites.
Je pense que les banques centrales et puis les agences de rating, là dont la responsabilité a été aussi largement connue à l'époque.
Alors je renvoie les auditeurs vers votre ouvrage essai de 2016, La folie des banques centrales, pourquoi la prochaine crise sera pire. Un grand merci à vous, Patrick Artus, d'avoir ouvert cette première grande table des idées de la saison à nos côtés. Merci à Maya Neskovic et à toute l'équipe de la grande table, Auriane Delacroix et Henri Leblanc pour la grande table culture. Après Mélisse Kerangal, rendez-vous demain avec les blouses blanches de Nicolas Philibert. Merci à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour cette grande table des idées avec l'aide précieuse de Jordan Joseph. À la réalisation Perret Legras avec Pierrick Monsigny. Très belle journée à tous et je vous dis à demain.